Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des pâtes à la boudonnine. Et qu'est-ce que c'est, sa recette? Des pâtes avec de la viande. Mais où vous avez trouvé de la viande? C'est Boudonnie qui l'a ramené dans son cartable.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais qu'est-ce que vous mettez avec cette viande? La crème fraîche qui était dans le frigo. Mais ça fait 2 mois qu'elle est dans le frigo.
Sur RTL.
Quoi? Elle est déjà dans l'eau avec les pâtes, la viande et le ketchup.
On n'en veut pas des pâtes à la boudonnie. C'est l'un des sketchs les plus connus d'Alex Métayer. Ça fait plaisir d'en entendre un extrait. Bonjour Pierre-Brice Lebrun.
Bonjour.
Bienvenue. Merci. Vous êtes un écrivain gourmand capable de nous passionner en parlant des patates du camembert. Et d'ailleurs, on vous avait reçu hein, pour parler des patates. Et comme aujourd'hui, des pâtes. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Moi, je vais vous dire, les pâtes, c'est l'Italie qui en produit le plus, forcément.
Alors oui, c'est l'Italie qui en produit le plus. En tout cas, qui en mange le plus. C'est le premier producteur avec 3 millions de tonnes. Et chaque Italien en mange à peu près 28 kilos par an. Et pour vous donner une idée, nous c'est 8 en France.
Oui, donc c'est,
ah oui,
c'est,
ils sont très...
C'est quand même effectivement, ils sont numéro 1 et de loin. Mais est-ce qu'on peut dire que les pâtes, c'est une sorte d'aliment universel?
Ah oui, on en trouve absolument partout. Et dans certains pays, on trouve des pâtes qu'on ne trouve pas ailleurs. Nos coquillettes, par exemple. Vous trouverez des coquillettes nulle part ailleurs qu'en France.
C'est une invention française et c'est qu'en France,
invention,
la coquillette.
Très franchement, on n'en sait rien. Ouais. Probablement, oui, c'est Panzani ou Lustucru. Voilà. Mais ça n'a pas, c'est pas sorti des frontières.
Elles sont bonnes pourtant, ces coquillettes.
Oui, avec du beurre et du jambon.
Oui, mais après, dans un autre pays, vous avez des petits trucs ronds, des petites étoiles. Chaque pays a son type de pâte. Et puis, c'est aussi universel dans la mesure où ça se mange d'une chambre d'étudiant jusqu'à une table étoilée avec des truffes, par exemple. On peut aller du pas cher ou très cher, quoi.
Pierre-Brice Lebrun, qui a inventé les pâtes? Alors aussi, j'ai envie de dire comme Thomas, les Italiens, forcément.
Alors là, non.
Ah.
Franchement pas. Alors par contre, ils les ont, on va dire, sublimés, c'est un mot à la mode. Donc ils en ont fait quelque chose de formidable. Mais ils n'ont pas plus inventé les pâtes que les Belges ont inventé les frites. C'est quand même devenu leur spécialité à tous. On ne sait pas exactement qui a inventé les pâtes. Mais par contre, on a beaucoup d'indices qui nous ramènent en Mésopotamie. Le premier pays qui a cultivé le blé, on est en 9000 avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Le premier pays qui a fait de la farine, le premier pays qui a fait du pain, etc. Et quand on suit l'avancée des pâtes en Europe, en Europe, on a des migrations qui viennent du Moyen-Orient, ouais, des Arabes.
On rappelle que la Mésopotamie, c'est l'actuel Irak.
En gros, c'est ça. Et à l'époque, ça allait de la Syrie au sultanat d'Oman, l'Iran même presque.
Ouais. Et les premières recettes écrites, là aussi, c'est dans
cette région du monde. C'est Mésopotamie, justement.
Voilà.
Le plus vieux recueil de cuisine qu'on a trouvé aujourd'hui, 1700 ans avant Jésus-Christ, comme le code Hammurabi dans un autre domaine, qui était traduit en français. Et ce sont des petites tablettes cunéiformes qui ont été gravées et on a trouvé une vingtaine de recettes.
Et on a l'idée de quoi, comment étaient accommodées ces pâtes, quelle forme elles avaient à l'époque, est-ce qu'il y avait de la sauce.
Alors c'est très moi j'ai essayé de les refaire, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de quantité. On ne sait pas du tout combien ils mettaient. Donc ils mettaient ça. On ne sait absolument pas dans quelle quantité, donc c'est assez compliqué. Il y avait des vermicelles. Donc, qui sont probablement les ancêtres des spaghettis. Et c'est la pâte qu'on arrive à suivre le plus dans l'histoire, le vermicelle.
Oui.
Voilà. On en retrouve au 14e, 15e siècle, 16e siècle. Voilà. Vermicelle, on les appelait même à l'époque des vermisseaux de Sicile. Parce qu'ils venaient de Sicile. Donc, les vermicelles, les vermisseaux. Et donc, ils faisaient des vermicelles, ils faisaient une espèce de lasagne qui était cuit au four, un peu comme le pain libanais, pain cabez. Voilà. C'est les infos qu'on a pour l'instant. On continue à chercher s'il reste des pots de sauce ou des choses comme ça.
Alors, on a cru pendant longtemps que Marco Polo avait rapporté les premières pâtes de Chine, donc au début du 14e siècle. Est-ce que c'est une légende et d'où vient-elle, cette légende?
Alors, c'est une légende complète. D'abord parce que dans son livre, Le Devisement du Monde ou Le Livre des Merveilles, il ne parle jamais de pâtes. Il n'y a pas un mot sur les pâtes, les spaghettis, etc. Et puis, quand il est parti, on avait déjà des traces écrites de pâtes, principalement à Naples, à Florence. Et on a des traces de pâtes en Sicile, 3 siècles avant la naissance de Marco Polo. Donc, il y est vraiment pour rien.
Et alors, qui a écrit la légende, en quelque sorte?
C'est très rigolo, c'est les Américains, comme souvent. Ah, oui, parce qu'il y avait des fabricants de pâtes aux États-Unis qui devaient trouver une façon de communiquer pour vendre leurs pâtes.
Ouais.
Et les pâtes étaient associées aux Italiens. Sauf que fin 19e, les Italiens, c'était les immigrés qui balayaient, qui faisaient le ménage, qui faisaient monter les murs, qui construisaient les maisons, c'était les maçons.
Ça faisait pas rêver les Américains,
non,
c'est ça?
Ça faisait pas rêver. On a fait la même chose en France avec le couscous. Le couscous a eu beaucoup de succès en France quand on l'a attribué au pied noir. qui n'y sont absolument pour rien, ils l'ont trouvé en arrivant. Ouais. Mais depuis que c'est pied noir, tout le monde en mange. Avant que ce soit pied noir, ça plaisait moins.
Ouais. Et donc, et les donc Américains il a fallu raconté... créer une image un peu plus historique, un peu plus...
Voilà, ils ont créé un journal qui s'appelle le Macaroni Journal, qui existe toujours, qui est comment, la communication de l'Association mondiale, l'Association américaine des fabricants de pâtes. Ils ont mis des articles pseudo-scientifiques dans ce magazine en expliquant que c'était Marco Polo et ça a été repris par tout le monde, y compris par Hollywood qui en a fait un film où un des marins de Marco Polo s'appelle Spaghetti.
Bon, Pierre-Brice Lebrun, on a bien compris que Marco Polo n'avait pas ramené de pâtes de Chine, mais les Chinois ont quand même des pâtes.
Les Chinois faisaient des pâtes.
Ce qu'on appelle les nouilles chinoises, elles étaient déjà
on arrive à les dater il y a 4000 ans, mais il y a très peu de farine de blé, elle n'est pas du tout faite comme chez nous. Elles ne sont pas du tout faites comme chez nous. On est plus sur de la farine de riz, des cuissons complètement différentes, des
Elles sont transparentes aussi.
Très souvent. Elles sont beaucoup plus étirées que les pâtes. Et puis la cuisson fait ça aussi. Si vous faites des raviolis maison, par exemple, avec une pâte assez fine, ils peuvent être quasiment transparents. C'est pas très compliqué à faire. Mais c'est pas la tradition, on va dire, en France ou en Italie.
Mais la nouille chinoise, c'est l'aliment de base en Chine.
La nouille chinoise est l'aliment de base, la nouille longue est l'aliment de base.
On aime bien dire ce mot nouille.
Oui, d'ailleurs, il y a
une insulte aussi, espèce de nouille.
Raymond Oliver, dans les années, je crois, 70, a publié un livre. Moi, j'aurais pas choisi ce titre, mais ça s'appelle L'éloge de la nouille.
On a appris plein de choses.
Non, mais on note tous vos conseils, Pierre-Louis Lebrun.
RTL.
Des pâtes, bordel.
La curiosité est un vilain défaut.
Moi, je pense qu'on porte pas assez d'importance aux pâtes, alors qu'elles sont toujours là pour nous.
Manger les pâtes, ça me donne la patate. Oui, les pâtes, c'est trop génial.
Chanson hommage aux pâtes par la youtubeuse Adèle. Des histoires et des recettes de pâtes, forcément, dans la curiosité, avec l'écrivain gourmand Pierre-Brice Lebrun. Est-ce que les pâtes inspirent beaucoup les artistes, autant que les pommes de terre et les frites ?
Les artistes, les chanteurs,
vous les chanteurs, oui.
Oui, il y en a quelques-unes. Bah, on a entendu le sketch de Métayer, là, qui est vachement connu. Oui, il y en a quelques-unes.
Et là, la chanson aussi.
Oui, je vous avoue que j'ai pas de nom comme ça.
Non, vous n'avez pas de disque de chanteur de pâtes.
Non, j'ai été disque de chanson de pommes de terre, mais pas de pâtes.
Ah, c'est vrai que vous aviez écrit un petit traité de la patate, de la pomme de terre. Qu'est-ce qui a chanté la patate ?
Tiens, on ouvre une parenthèse. Il y a, je me souviens de qui, Marcel Amon, Bleu Blanc Frite. C'était le nom de la chanson. Il y a beaucoup de chansons populaires plus anciennes. Yves Montand aussi promène sa copine sur les grands boulevards. Il lui achète des frites.
Et on a chanté les pâtes aussi. Et on va apprendre les cuire.
Passionnant avec vous, Pierre-Brice Lebrun, c'est qu'on sautille comme ça d'histoires, d'anecdotes passionnantes à des conseils très concrets pour cuisiner ces pâtes. Et Thomas voulait savoir comment on cuisinait al dente les pâtes. D'ailleurs, est-ce qu'il faut les faire al dente ou pas ? Est-ce que c'est un indispensable pour bien savourer la pâte?
D'abord, il faut les faire comme on aime. C'est le plus important. Moi, je préfère al dente.
C'est-à-dire croquant.
Croquant. On propose, alors si ce sont des pâtes sèches, on propose d'enlever 2 minutes autant conseillé par les fabricants, sachant que les pâtes très rapides qui se cuisent en 2-3 minutes, ça veut dire qu'il y a des choses dans la pâte qui fait que ça cuit vite et c'est plutôt à éviter. Une cuisson de pâte, c'est 10 minutes. Al dente, on les alentours de 8 minutes.
Est-ce que ça a toujours été conseillé, cette cuisson al
dente ? Non, c'est fin du 19e siècle. C'est un Italien qui a eu l'idée. Avant, ça cuisait parfois pendant plusieurs heures et dans des bouillons très épais. On parle même de bouillon, bouillon avec du lait d'agneau, avec de la cannelle, avec de la muscade. Voilà.
Donc
ça faisait, ça faisait quelque chose de très compact.
Mais alors, on coupait petites pâtes, des vermicelles là,
Des vermicelles qui s'aggloméraient et qu'on coupait en tranches. Ou alors, c'était des lasagnes qui étaient cuites comme ça à la marmite quand ce n'était pas au four.
Mais qui a inventé la cuisson courte ?
Cavalcanti. C'est un Italien, un cuisinier italien très connu qui a théorisé la cuisson courte et qui a théorisé aussi l'eau claire. C'est-à-dire, arrêtez de mettre des trucs dedans, c'est aussi bon quand il n'y a pas du lait, des épices, voilà. Le moins de choses possible.
C'est un peu notre Escoffier à nous, ce Cavalcanti ?
Il y en a eu beaucoup en Italie, des Escoffiers, mais oui, c'est un cuisinier extrêmement...
Bon, comme je vois que Thomas a très envie de parler italien, Pierre-Brice Lebrun, dans votre petit traité des pâtes, publié aux éditions Le Sureau, vous parlez de la spadatella. Vous le diriez comment ?
Je ne sais pas, je ne parle pas italien. En général, on met l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe.
Donc ça aurait donné spadatella. Hein, c'est spadellata en fait.
Ah, spadellata, déjà je m'étais trompé en
italien. Donc,
on n'écrit pas non plus l'italien.
Alors, c'est quoi la spadellata ?
Alors, l'idée de la spadellata, c'est quand les pâtes sont cuites et qu'elles sont sorties de l'eau, on les met très rapidement dans une poêle très chaude. quelques secondes à une minute maximum.
Dans quoi ? Dans du beurre ?
Alors, soit dans rien, c'est juste pour les sécher.
Ouais.
Dans ce cas-là, on va rajouter à ce moment-là les épices qu'on veut mettre sur les pâtes. Si vous voulez râper une truffe, c'est le moment, puisque c'est un peu chaud, ça va, voilà, c'est parfait. Mmh. Et si au fond de la poêle, il y a des sucs de cuisson qui traînent, genre un magret qui est passé par là, ou quelque chose...
Ah oui, si on n'a pas lavé notre poêle, vous voulez dire ?
Ah ben ça se lave pas une poêle, enfin pas tous les jours non plus quoi. C'est-à-dire on essaye de construire les menus en fonction de ce qu'on a. C'est-à-dire s'il y a l'eau des pâtes, le mieux c'est de faire des légumes avant les pâtes pour cuire les pâtes dans un bouillon de légumes.
Ouais.
Et puis de faire un magret, comme ça on peut passer les pâtes dans la poêle.
Voilà. Oh, vous me donnez faim, c'est un truc de
ah bah
de,
écoutez,
de
si j'avais su, je serais venu
ah
avec...
Ah bah oui, vous seriez venu avec votre dernier... On invente toujours, tiens, est-ce qu'il y a des chefs qui inventent toujours de nouvelles cuissons pour les pâtes? Parce qu'on a l'impression qu'on a tout fait.
Pour les pâtes, pas trop, je crois qu'il y a beaucoup de chefs qui travaillent avec des bouillons. Donc qui vont cuire dans des bouillons, revenir au bouillon original et qui vont avoir l'idée de cuire les pâtes dans un bouillon
qui a déjà du goût,
comme William Ledeuil par exemple,
les restaurants Kitchen Gallery,
qui s'est spécialisé etc. là-dedans. Mais sinon les pâtes, non, pas trop je pense. On a beaucoup de nouvelles cuissons pour plein d'autres choses. Les pâtes, si on invente des cuissons pour aller vite au micro-ondes ou des choses comme ça, mais voilà, un puriste aurait peut-être tendance à dire que c'est pas une excellente idée.
Ce qu'on adore avec les pâtes, Pierre-Brice Lebrun, c'est qu'elles font voyager, on peut se les approprier aussi, et on les accommode dans les régions avec des produits locaux. Est-ce que vous avez quelques recettes typiquement régionales?
Déjà, on peut les mélanger avec absolument n'importe quoi. Moi, j'habite les Landes, donc forcément avec du canard. Mmh. Et on peut mélanger des pâtes et du magret séché, coupé en petits morceaux, avec des petits poivrons, par exemple. Un peu d'ail et un peu de persil. C'est-à-dire, on prend presque une recette de pommes de terre sarladaise qu'on adapte à des pâtes. Après, si vous êtes dans le Puy-de-Dôme, vous pouvez faire une petite sauce au Saint-Nectaire.
En Bretagne, ma mère fait des très bonnes pâtes avec des coques et de la crème fraîche.
Bien sûr, sans problème.
C'est bon, ça.
En Sicile, on en trouve, en Sardaigne, on en trouve beaucoup avec des sardines.
Ouais.
On trouve...
Fait ce qu'on veut avec les pâtes.
Oui. Ah oui, et si vous voulez en plus les faire en gratin, ça ouvre encore plus de portes, quoi, le maroilles. Enfin, ce qu'on veut.
Ouais, ah, le maroilles pour gratiner ses pâtes.
Ah ouais. Après, il faut laver le four, là, pour le coup.
Mais ça doit être quand même très, très bon.
Ah non, on ne lave plus rien. Hein. Vous nous avez dit qu'on ne lavait pas.
C'est quoi votre recette de pâtes préférée, Pierre-Brice?
Ah ben moi, c'est les magrets de canard et c'est ce que la famille plébiscite. Quand mes gamins me demandent d'en faire à midi, j'ai la moitié du collège qui débarque au lieu d'aller à la cantine.
Ouais.
Donc, celle au magret marche bien. Donc, des petits magrets, un magret séché ou fumé, tout simple.
Note, hein.
On coupe des tout petits bouts comme des allumettes. Quoi. On le sort longtemps avant de faire les pâtes pour que la graisse... soit un peu collante, les pâtes dessus, ail, persil, et éventuellement des petits morceaux de poivron basque.
Vous êtes dans quel coin des Landes qu'on envoie tous les
Mont-de-Marsan,
qu'on envoie tous les écoliers de la région.
C'est pas 200-300, c'est vous.
Je ne suis pas à 200-300. J'ai le même coup quand je fais les frites.
Ouais. Vous nous l'avez dit, Pierre-Brice Lebrun, les pâtes, elles sont donc nées en Mésopotamie, comme beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, dans cette région qui correspond à peu près aujourd'hui à l'Irak. Mais on va parler un peu de l'industrialisation. À partir de quand on peut parler d'une usine à pâtes? Où se trouve l'usine à pâtes la plus ancienne connue, en tout cas?
Alors la plus connue, elle est en Sicile.
Ouais.
Elle a été décrite, donc on a un écrit par un géographe qui s'appelait Al-Idrissi. Et à l'époque, la Sicile était française. Elle était normande. C'était le roi Roger II. On a eu un roi Roger II.
On est quoi, en 12e siècle, c'est ça?
Exactement. Donc la plus vieille trace, c'est 1154, je crois, quand Al-Idrissi visite l'usine. Mais l'usine existe déjà.
Ah oui, depuis longtemps. Ouais.
Depuis, il ne dit pas combien de temps, mais a priori depuis un certain temps. Les Arabes sont arrivés en Sicile en 880-890. Donc ils ont, à ce moment-là, implanté des oliviers, enfin construit plein de choses. Donc on peut imaginer que c'est à peu près dans ces eaux-là. Mmh. Et donc il décrit, c'est à 30 km à l'est de Palerme, à Trabia, il n'y a plus aucune trace de cette usine. Et il décrit donc une usine de pâtes, et les pâtes étaient exportées à Carthage, en Italie évidemment qui n'est pas loin, en Espagne.
Et en France, alors elles arrivent quand ces pâtes, Pierre-Brice Lebrun? Avec qui?
Alors elles sont arrivées avec les croisés, probablement, en arrivant de Palestine et du Moyen-Orient, mais elles arrivent vraiment après Marignan, 1515. Mmh. Puisque Marignan, c'est à côté de Milan, et les Français ont été, de François Ier, ont été battre les Suisses. Et donc après, ils sont repartis à pied, c'était des fantassins.
Ils sont repartis avec des pâtes?
Ben, probablement, parce qu'il fallait qu'ils mangent. L'armée, à l'époque, ne donnait pas de réserve ou de rations ou de boîtes de conserve. Donc ils ont dû se débrouiller pour manger. C'est aussi pour ça, probablement, qu'on a dans le Dauphiné des pâtes qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est qu'un fantassin qui marche, au bout d'un moment, il en a marre de marcher, et donc il rencontre une jeune fille, par exemple, il s'arrête.
Et il fait des pâtes.
Et il fait, par exemple, des pâtes, ou il montre, en tout cas, ce qu'il a appris,
Tiens, Steven. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. On discutait.
Ah oui ? Et vous discutiez de quoi ?
Si votre défaut, c'est la curiosité...
Des pâtes.
Des pâtes ? Y a pas grand-chose à dire sur les pâtes, si ?
Merde, il a raison, c'est nul comme t'aimes les pâtes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, sur RTL.
Je suis pas sûr d'avoir tout écouté, mais y a une chose que j'ai retenue.
Ce n'est pas du tout ce que tu crois, Alan.
Vous avez fait des pâtes ?
Oui ! Oui, voilà, c'est ça, on a fait des pâtes.
Il finit toujours Paris.
Je crois que Les Frères Podcast, c'est une série sur YouTube. Ils sont vraiment à côté de la plaque parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les pâtes, notamment avec notre invité, écrivain et gourmand Pierre-Brice Lebrun. Et depuis tout à l'heure, on parle des pâtes, de leur histoire. On est remonté jusqu'en Mésopotamie. Vous nous avez dit 9000 ans avant notre
ère. Le blé, la culture du blé.
Ouais. On peut imaginer comme il y avait du blé, comme il y avait de la farine, comme il y avait de l'eau.
Bon. C'est-à-dire que le blé sert qu'à faire de la farine, on ne peut pas le manger. Donc s'ils sont cassés les pieds dans le désert, irakien, à faire pousser du blé, je pense qu'il savait quoi en faire après, parce que sinon c'est absurde. Ouais.
Donc on est remonté très loin dans le temps, et on a oublié de vous dire d'où vient le mot « pâte ».
Alors, d'où il vient, on ne sait pas trop, mais il est très récent, c'est le XXe siècle. Les premiers paquets de pâte après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, on parle encore de nouilles, énormément. Donc nouille était le mot générique depuis un peu avant la Révolution.
Donc c'est devenu un mot familier aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, c'était le nom des pâtes,
oui,
les nouilles.
Oui, nouilles, c'était les pâtes, et ça vient de l'allemand Nudeln, et ça a été créé en allemand, ça viendrait peut-être du latin, alors il y a plusieurs explications, mais nouilles, ça a été repris ensuite par les Anglais, par nous, donc noodle et puis nouille pour nous. Et puis ça a disparu au profit des pâtes, peut-être parce que justement il y a eu une connotation péjorative. C'est-à-dire qu'on a commencé à utiliser nouille dans un autre sens et que on a du coup peut-être les fabricants ou les restaurateurs se sont dit tiens, on va un peu changer.
Mais en Italie, on disait quoi ? On disait pasta ou on disait autre chose ?
Alors on disait surtout macaroni jusqu'au 18e siècle à peu près. C'était le mot générique macaroni. Et on a même un écrit de Goethe qui dit qu'il a mangé des macaronis sous toutes leurs formes. Voilà, 1767.
Pierre
voyage Brice, en Italie.
Lebrun, quelles sont les premières grandes marques françaises, les plus grandes marques françaises de fabricants en fait de pâtes ?
Alors les trois premières, c'est Pain de Panzani, qui était français natif de Niort. Il a bien mis le drapeau italien, mais il était français. En fait, il a créé des pâtes, il a commencé à fabriquer des pâtes après avoir été démobilisé en 1939. Il est rentré chez ses parents qui avaient une épicerie à Niort et ils se sont demandé comment ils allaient survivre à la guerre. Ils ont dit, on va faire des pâtes, c'est pas très compliqué. Et donc, ils se sont lancés dans le commerce de pâtes. Et sinon, il y avait Lustucru et Rivoire et Carré.
Qui ça, étaient les trois marques historiques.
Les trois marques historiques. Voilà. Mmh.
Est-ce qu'il y a des petites marques aujourd'hui de pâtes artisanales ? Bon, on en voit quelquefois au supermarché, mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ?
La plupart des marques artisanales sont italiennes. Il y en a assez peu qui sont françaises. Il y en a quelques-unes, moi j'en connais en Belgique, mais qui sont faites par Kraft Food. Donc en fait, c'est international. Quoi. C'est ça, voilà. Des pâtes, il doit y en avoir. Alors qu'il y a évidemment des pâtes fraîches artisanales. Ça, on peut en avoir dans chaque village, dans chaque ville. Mmh. C'est-à-dire le traiteur du coin italien ou pas d'ailleurs.
D'ailleurs, les pâtes fraîches, pâtes sèches, ouais. C'est quoi la différence ? Les sèches, bon, c'est celles qu'on achète au supermarché, elles sont sous vide, enfin, elles ne sont pas au rayon frais, c'est ça ?
Alors les pâtes fraîches, elles sont au rayon frais normalement, en tout cas elles doivent être gardées sous vide, elles se conservent beaucoup moins longtemps, parce que ce qui est dedans, si c'est... ou même ce qui a servi à les faire, donc des œufs, etc., ne va pas accepter beaucoup de voyages. Donc les pâtes fraîches, c'est ce qu'on peut faire à la maison. Moi, je fais mes pâtes moi-même à la maison, je ne m'embête pas à les sécher, parce que c'est assez compliqué. Donc ça veut dire qu'on doit les manger très vite ou les congeler. Tandis que les pâtes sèches, comme leur nom l'indique, elles ont été séchées. Maintenant, c'est en soufflerie. Et il y avait une usine à New York qui a été créée il y a des années, fin 19e par un Français, où ils faisaient sécher les spaghettis et les macaronis en guirlande sur le toit. C'est un très long bâtiment sur le port de Brooklyn. Et on a des photos de guirlandes, on trouve sur Internet assez facilement. C'est l'entreprise...
Donc il y a quoi ? Il y a des dizaines de mètres de pâtes qui sèchent sur le toit, c'est ça ?
Oui, des dizaines de mètres qui sèchent. Et pour fabriquer, c'est Zerega, voilà, Antoine Zerega, qui était un meunier lyonnais, qui est parti fabriquer des pâtes aux USA. Voilà,
c'est difficile donc de sécher ces pâtes, ça on l'a bien compris, Pierre-Brice Lebrun, mais de les fabriquer, on peut tous faire ça ?
Ah oui, il faut de l'eau et de la farine.
Et c'est tout ? Non, il manque quelque chose ?
Non.
Mais attendez, après...
Un peu de savoir-faire, dites-nous.
Maintenant, il faut mélanger. Jusqu'à ce que ça tienne.
Et après, on fait comment les formes ? Comment elles tiennent ?
Ben vous les aplatissez avec un rouleau. Oui. C'est le rouleau, voilà. On les aplatit avec un rouleau. Le plus simple, c'est de faire des raviolis ou des pâtes farcies, quelles qu'elles soient, parce qu'on n'a qu'à découper avec un verre, avec n'importe quoi, des petites formes.
D'accord.
Si vous voulez faire des spaghettis, là, c'est compliqué, parce qu'il faut une aiguille à tricoter pour faire un trou, il faut souffler.
C'est vous qui ferez ça.
Mais par contre, j'ai vu. Ouais. Et par contre, les tagliatelles, on peut les couper au couteau, quoi. C'est un peu long, quoi, avec une règle, comme si on coupait du tissu. C'est sur des grandes plaques.
Alors,
mais c'est très facile à faire.
Bon, bah, la question, je vais y mettre. Hein.
La question fondamentale, c'est est-ce qu'on met des œufs ou pas?
Ah, est-ce qu'on met des œufs ou pas?
Voilà.
Alors?
Ah, bah, c'est après, chacun fait comme il veut.
Ah bon, je croyais qu'il y avait un interdit. Non, c'est une question.
Non, mais
de
ça
goût.
Change le goût alors.
Ah oui, ça change
qu'est-ce
le goût.
Qu'est-ce que ça apporte?
Alors, ça les rend plus moelleuses, mais ça les rend aussi beaucoup plus caloriques. Et donc, moi, je préfère ne pas mettre deux. Puisque vous me demandiez comment je cuisine.
Par contre, plein de magrets, plein de gras.
Oui, c'est ça.
C'est ça. On est tous pareil.
Un jaune d'œuf cru sur les pâtes cuites.
Ah oui, ça
un jaune d'œuf cru. Et le jaune d'œuf va se coller aux pâtes et va permettre que la sauce, le persil, l'ail, tout ça glutine, ça amalgame.
Tiens, justement, à propos de sauce, l'association pâte et tomate, pâte et sauce tomate, c'est forcément en Italie que ça a été trouvé.
C'est basique, ça, ouais.
Eh ben non, dites donc, c'est nous.
C'est les Français.
Oui, c'est les Français. Ouais, c'est nous. À l'époque, la tomate était une plante d'ornement. Donc on l'a mangé pas. Les tomates, on va dire, originales, maintenant elles ont été tellement mélangées entre elles, mais les tomates originales, c'est du poison. On peut tuer quelqu'un avec... Il y a un très bon roman policier, d'ailleurs, qui s'appelle Meurtre à la pomme d'or, Meurtre à la pomme d'oro, de Michel Barrière, où il y a un apothicaire qui tue tout le monde avec des tomates. Avec des tomates. En les jetant, hein, mais en faisant un poison.
D'accord.
Voilà. Et
donc on s'en servait uniquement pour
c'était
faire joli.
Comme des tomates cerises, c'était assez joli dans un jardin. Voilà. Et le premier qui a eu l'idée de mélanger la tomate et les pâtes, c'est l'inventeur du concept du guide Michelin à Paris, Grimaud de la Reynière, qui a fait un potage tomate-vermicelle. Dans les grands repas qu'il faisait, où il invitait tout le monde pour faire la promo de son guide qui s'appelait l'Almanach des gourmands.
Bon, on a des pâtes, on a de la sauce tomate et le fromage. Là aussi, c'est...
C'est parmesan, non, normalement, sur les pâtes.
Voilà, donc... Alors, ça dépend. En Italie, ça dépend de la région. Oui. Ça peut être du parmesan, sachant qu'en France, ce qu'on trouve, c'est souvent pas du parmesan. Ou alors, il faut acheter le morceau et le râper, mais en sachet, c'est quand même très rarement du parmesan.
C'est quoi, alors, si c'est pas du parmesan?
C'est des fromages proches. C'est comme, un peu comme des gruyères. Les gruyères, c'est un mot...
Mais c'est marqué parmesan, mais c'est pas du parmesan, ça,
c'est-à-dire
dire.
Qu'il est
c'est
pas...
C'est possible, ça.
Oui, comme plein de choses, oui. Il y a plein de produits qui sont... peu protégé, comme le camembert peut être fabriqué dans les Vosges, hein, avec du lait de vache vosgienne. Et on ne pourra pas l'appeler de Normandie, mais il pourrait être fabriqué. Donc le parmesan, on peut trouver absolument n'importe quoi dedans. Il faut faire attention, il faut vraiment le prendre et le râper. En fonction des régions, à côté de Rome, c'est plutôt un fromage de brebis, le pecorino romano, qui est très sympa, qu'on laisse sécher et puis qu'on râpe. C'est très bon avec du fromage de chèvre.
Ah oui.
Et le mieux, à mon avis, c'est de garder le fromage du coin, donc le comté, quand on habite en Franche-Comté ou le je sais pas, enfin ce qu'on a sous la main, quoi.
Et donc
et qu'on le râpe, qu'on
râpe. Dans les Landes, vous mettez quoi?
Alors pour le gratin, je mets du pomarez. Mais sinon, du Cantal, parce que c'est mon fromager a un très bon Cantal.
Eh ben voilà, il faut aller chez son fromager, acheter des bons produits et des produits le plus souvent possible locaux. Merci beaucoup,
merci
Pierre-Brice
beaucoup.
Lebrun.
Merci à vous.
Passionnant et ça nous a mis en appétit. Votre petit traité des pâtes est publié aux éditions Le Sureau. Vous venez aussi de publier ce petit traité du camembert. On en parlait, on en a dit un mot du camembert. Et puis tiens, je le signale, vous donnez une conférence sur l'histoire des pommes de terre. C'est à Anglette, au Pays Basque. Et c'est le 21 janvier prochain. Merci.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.